Bonjour David, bonjour à tous. Le département des Deux-Sèvres a décidé de débourser 150 000 euros pour le passage de la flamme olympique en 2024. Certaines collectivités ont refusé. Une après-midi handisport, demain mercredi à Bressuire. Cet événement, une première de cette nature en Lourdes-Sèvres, est destiné aux enfants de 6 à 15 ans. Céolis s'inscrit dans la démarche pédagogique conduite par le GODS au travers d'une convention signée avec ce groupement ornithologique des Deux-Sèvres. La société d'histoire du Touarcé retrouve un rythme de croisière avec une douzaine de rencontres, d'expos et de conférences programmées cette année. Quant à la météo, des pluies éparses sont annoncées pour cet après-midi. Le député sud de Sévrien, Guillaume Chiche, en appelle des sanctions fortes après la reconnaissance des républiques de Donetsk et Lugansk par Vladimir Poutine. Dans un communiqué, le parlementaire indique, je cite, qu'il faut frapper au portefeuille des oligarques russes en refusant tous les investissements des piliers du régime russe sur notre territoire et en prenant des mesures de confiscation et de restitution des biens mal acquis. Et de conclure, nous devons agir vite. La menace d'une guerre plane sur la frontière ukrainienne. Il en va de la sécurité du peuple ukrainien et plus globalement de la paix dans le monde. Fin de citation. La circulation du Covid en Deux-Sèvres est toujours très active selon les derniers chiffres de l'ARS datant de ce matin. Malgré ce contexte, le taux d'incidence à 1007 cas aujourd'hui pour 100 000 habitants est en baisse, tout comme le taux de positivité. Plus de 3700 nouveaux cas ont été recensés en une semaine contre 7700 la semaine précédente. Compte tenu de la forte circulation du virus, la proportion d'enfants et d'adultes est élevée, notamment les 30-39 ans, mais toutefois en nette diminution pour les autres tranches d'âge. À ce jour, 99 hospitalisations Covid-19 sont en cours, c'est 13 de moins en une semaine. La flamme olympique traversera donc les Deux-Sèvres dans 2 ans. Le département a fait le choix de s'inscrire dans une démarche qui ne fait pas l'unanimité en France. En effet, pour obtenir le passage de la flamme avant que ne démarre les JO de Paris, du 26 juillet au 11 août 2024, les départements doivent débourser 150 000 euros. La Loire-Atlantique a dit non, la Vendée a accepté, le sujet fait débat en Maine-et-Loire. En Deux-Sèvres, la présidente du conseil départemental, Coralie Desnoux, se réjouit que des territoires ruraux soient de la fête, calculant que 150 000 euros, c'est 39 centimes par deux Sévriens. C'est le prix à payer pour que la flamme passe par chez nous avec certitude. Patrick Maché, le président du comité départemental olympique et sportif en Deux-Sèvres.
Nous n'avons pas encore les modalités exactes du passage de la flamme. Moi, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau départemental, il y aura des points d'étape. Hein. Normalement, il devrait y avoir 5 points d'étape. Après, ça va se travailler. Hein, et ça va traverser, bien sûr, le territoire.
Au-delà du passage de la flamme, cette démarche valide le fait que les Jeux de Paris auront un rayonnement national et pas seulement dans la capitale.
C'est une excellente chose. Pourquoi une excellente chose? Parce que ça rentre tout à fait dans la volonté du COJOP, comité départemental olympique, du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, de faire que lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, la France entière puisse en profiter, d'où la labellisation des collectivités au label Terre de Jeux Paris 2024. Voilà. Donc dans notre département, pour l'instant, 19 collectivités sont labellisées. Sous le coup, il y a déjà une quinzaine qui nous ont contactés, qui vont se labelliser rapidement.
Comment il s'obtient et il sert à quoi ce label?
Alors comment on peut l'obtenir? Eh bien, il faut que la collectivité, ce soit une municipalité ou une communauté de communes, il suffit de s'inscrire directement sur le site Paris 2024. Il y a un minimum d'obligations à remplir et après, l'objectif, c'est sur son territoire, développer un certain nombre d'actions avec ses partenaires locaux. L'objectif, c'est que la pratique sportive est un bien-être pour la santé, le sport santé-bien-être. Voilà.
Patrick Maché, le président du comité départemental olympique et sportif en Deux-Sèvres, interrogé par Fabien Gazot. Et puis à propos de sport santé, sachez que le centre hospitalier Nord de Sèvres a été reconnu maison sport santé par le ministère chargé des sports et le ministère des solidarités et de la santé. On aura l'occasion d'y revenir en fin de semaine. Une après-midi consacrée au handisport demain après-midi à Bressuire, destinée aux enfants de 6 à 15 ans ayant une déficience sensorielle et ou motrice, ainsi qu'à leurs amis, frères, sœurs, camarades de classe, etc. Cet événement est une première en Nord de Sèvres alors qu'il avait déjà été organisé dans le sud. L'objectif étant de passer une après-midi conviviale autour de la pratique handisport et de faire comprendre aux enfants et adolescents que peu importe leur problématique, qu'ils peuvent véritablement s'épanouir au travers d'une activité sportive. Écoutez Marion Baudouin, elle est chargée de développement pour le comité handisport des Deux-Sèvres.
On voulait principalement travailler avec les enfants dans un premier temps pour pouvoir leur offrir la possibilité, même s'ils ont une déficience sensorielle ou motrice, de pratiquer un sport, de leur faire comprendre dès le plus jeune âge qu'ils ont la possibilité de pouvoir pratiquer un sport qui leur sera adapté, bien sûr. Là, la journée du 23 février sera principalement ciblée sur des sports handisport qui ont été inventés pour des personnes en situation de handicap. Le torball, la boccia, le biathlon sarbacane et le tennis de table. Donc j'imagine que certains d'entre eux ne parlent pas au plus grand nombre. Et c'est là du coup toute la mission de mon travail, de les faire découvrir ces sports-là et de les démocratiser le plus possible.
Qu'est-ce qu'on développe au travers de ces activités-là ?
Tous les sens, on va avoir une ouverture d'esprit qui va être totalement différente que dans des sports conventionnels. On va parfois chercher à se couper de la vision, à apprendre à réfléchir différemment et à aborder le sport d'une nouvelle manière.
Cette animation autour d'activités handisport mêlant sport collectif, de vitesse, de précision ou encore de réflexion aura lieu demain, mercredi de 14 à 17h au gymnase du lycée Léonard de Vinci à Bressuire. Céolis apporte son soutien au groupe ornithologique des Deux-Sèvres pour ses actions pédagogiques en faveur de la protection des oiseaux. Acteur majeur de l'énergie en Deux-Sèvres, Céolis vient en effet de signer un partenariat avec le GODS, dont le but d'accompagner quelques écoles du département dans la partie pédagogique du projet intitulé « Influence des grandes infrastructures sur l'avifaune de plaine ». Catherine Cousinard, directrice générale du groupe Céolis.
On a été proactif sur la question avec le GODS pour essayer de faire un partenariat gagnant-gagnant d'études, de sensibilisation et après de pédagogie auprès de la population sur... On veut tous de l'énergie, mais on veut tous aussi préserver l'environnement. Donc comment on peut faire tous collectivement pour mieux connaître les enjeux et mieux connaître les moyens d'action qu'on peut avoir pour que tout le monde puisse coexister de manière bénéfique. Nos ouvrages sont implantés forcément dans la nature et on souhaite limiter leurs interactions négatives sur l'environnement. Et pour ça, il faut les connaître, les mesurer. Donc on fait une partie des études pendant les phases de développement des projets. Mais rarement, on est dans l'étude de la dynamique après des systèmes par rapport à la vie dans l'environnement. Et c'est ça qu'on veut mieux étudier avec le GOT.
Quel impact des infrastructures de Céolis sur les oiseaux et plus particulièrement sur les trois espèces protégées que sont l'outarde cametière, le busard cendré et l'oedicnème criard? C'est donc tout l'intérêt de ce programme qui permettra à des enfants de mieux comprendre et visualiser le cycle de vie des oiseaux. C'est ce projet pédagogique unique créé et développé par le GODS pour 8 écoles du cycle 3 en Deux-Sèvres. L'aide de Céolis va permettre de faire bénéficier 4 nouvelles écoles de l'accompagnement des animateurs et des bénévoles de l'association. François Tessier, le directeur du GODS.
Le partenariat se fait sous la forme d'un contrat de mécénat annuel dans lequel le montant financé va permettre d'accompagner 4 écoles dans le département donc des Deux-Sèvres sur un projet pédagogique qui a été créé et initié par le GODS il y a déjà quelques années et qui permet en fait au travers de différentes séances d'animation pour les enfants des cycles 3, c'est-à-dire CM1, CM2 et 6e, de pouvoir poser des problématiques sur le projet d'infrastructure sur la vie faune. 5 séances qui vont aussi leur permettre d'aller assez loin et de pousser des problématiques scientifiques jusqu'à des modèles 2D, 3D, et pour terminer sur une visite sur place sur la plaine et la vie faune de plaine. Donc 4 nouvelles écoles que le Céolis a choisies et qui permettront d'accompagner et de sensibiliser les plus jeunes sur cette problématique.
Les écoles ont été sensibilisées à cette action portée par le GODS. Lancé en 2020-2021, le programme a déjà permis donc à 8 écoles de notre département d'en bénéficier grâce à la subvention de 10 000 euros de Céolis. 4 nouvelles écoles vont aussi en profiter dès la rentrée 2022-2023. Les élus de Mauléon ont été réunis hier en conseil municipal à l'ordre du jour, notamment le débat de rotation budgétaire. Nous y reviendrons. Les historiens toircés repartent à l'assaut de leur futur. Avec une dizaine de rencontres, d'expos et de conférences, la Société d'Histoire du Toircé, la Chapte, retrouve son rythme. Parmi les sujets évoqués, les Juifs du Toircé, les soldats de Sévrien de Napoléon, juin 40, l'ultime combat, ou bien encore la reprise aux Anglais de Thouars par Du Guesclin il y a 650 ans. Bref, autant d'occasions de revisiter le passé à travers le prisme du Toircé. Parmi cette liste incomplète, deux rendez-vous marqueront la vie de la Chapte, notamment fin juin, l'Assemblée Générale au château de Glenay en pleine restructuration. Précision du président Damien Coquart au micro Colline de Dominique Hérault.
Au château de Glenay, ce qui est super parce que c'est l'emblème même du patrimoine qu'on restaurera bien, avec un travail en collaboration avec les propriétaires pour reconstituer la mémoire contemporaine du château de Glenay. Donc un grand événement. Un deuxième grand événement, ce sera le 200e anniversaire de la conspiration de Thouars avec le général Berton, un général d'Empire qui s'était battu sous Napoléon, qui était mis à la retraite et qui a été entraîné dans une conspiration qui agrège des Toircés, des gens de Parthenay, des gens de Bressuire, des gens de Loudun, qui ne savent pas trop pourquoi d'ailleurs. Ils sont juste très mécontents, ils ont un petit peu peur des aristos. On est à la restauration qui remonte le nez et décide de monter sur Saumur et après de monter sur Paris. Alors bien sûr, tout ça va se terminer dans un échec total, pas dans un bain de sang, mais il y aura un grand procès, il y aura de nombreux condamnés à mort, notamment les quatre sergents de La Rochelle, Berton qui sera guillotiné à Poitiers, et puis à Thouars, Sauger et Jaglin qui vont être eux guillotinés place Saint-Médard. Donc je dirais que cette affaire n'est pas une grande affaire, mais par contre le procès est un grand procès qui montre l'iniquité d'un pouvoir en place. Donc là on va organiser une très grande conférence avec l'université Interage, mais également une pièce de théâtre pour relater l'iniquité du procès.
Mais malgré deux ans sur pause, l'association a préservé ses 160 adhérents, sa capacité d'investissement et donc toute sa force de frappe grâce au mécénat qui lui permet d'agir concrètement en faveur du patrimoine. Damien Coquart.
Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, on a conservé le même nombre d'adhérents, ce qui est assez exceptionnel. Ils nous ont gardé leur confiance. Et même si on n'a pas pu faire beaucoup de manifestations, notamment pour le mécénat, on a réussi à collecter autant de fonds que l'année dernière grâce aux adhésions de nos adhérents. Donc c'est reparti et ça repartira pour longtemps encore. La première chose qu'on a achetée, parce que c'est indispensable de le faire très vite auprès d'un antiquaire, c'est encore un deuxième carreau de Marie de la Tour d'Auvergne, qui ornait en tout cas son cabinet, un carreau de 1635 en Nevers. Une occasion qu'on a réussi à faire. Le grand chantier, entre guillemets, du mécénat d'Achat, c'est le tableau de la Seine de Saint-Médard, qui est un tableau qui est un truc assez énorme. Toute la face est restaurée et il nous reste encore tout l'envers et le châssis et le cadre à restaurer. Donc rien avant juin 2022.
Si les années 2000-2021 ont été celles de deux grosses dépenses, 6000 euros pour la restauration du tableau de Saint-Médard et 2600 euros pour deux chandeliers bijoux de l'orfèvrerie toircaise d'autrefois, cette année devrait se limiter à 5000 euros. L'appel aux dons défiscalisés reste donc toujours d'actualité. Pour ceux qui en douteraient, l'histoire est une passion très actuelle. En témoigne le succès du concours de nouvelles, dont le palmarès sera prochainement connu. Ce concours a reçu 60 participations, preuve de son intérêt. Reportage de notre correspondant toircé, Dominique Hérault. Tom Lebeau reste niortais, très peu sur les feuilles de match de Sébastien Le Sabre. Le milieu de terrain niortais devait en effet être prêté jusqu'à la fin de la saison à l'Apollon Pontou, club de D2 grec. Mais suite à des complications administratives du côté des Grecs, le prêt n'a pas pu être validé par la FIFA dans les temps impartis, indiquent les dirigeants niortais. Le joueur de 23 ans va donc retrouver ses coéquipiers dans l'équipe réserve des Chamois en National 3.